Radio Okapi.
Le journal présenté par Billy Van Lutumba.
Après l'adresse du chef de l'État hier devant le Parlement réuni en congrès, l'heure est aux réactions. En ouverture de cette édition, la satisfaction du syndicat des administratifs et enseignants du Congo et aussi le désintéressement de SID parti de Martin Fayoulou. Nous vous parlons également de la situation sécuritaire dans le territoire de Kabambaré, province du Maniema, qui inquiète encore. À la suite des affrontements dans cette partie de la province, des personnes se sont déplacées pour trouver refuge dans les contrées environnantes. Jean Maubert, chercheur RDC Amnesty International, intervient en fin de ce journal comme invité. Il commente le rapport publié mercredi par son organisation sur le massacre perpétré par l'armée congolaise contre un groupe des adeptes du mouvement politico-religieux appelé Wazalendo le 30 août 2023 à Goma dans le Nord Kivu. Tout de suite, nous vous déroulons les autres contours de l'actualité congolaise et des quelques nouvelles phares en dehors de la RDC. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, a salué jeudi l'engagement du chef de l'État pour suivre le programme de la gratuité de l'enseignement de base avec la possibilité de l'élargir au niveau secondaire. La présidente de cette structure, Angèle Payenzo, a exprimé sa satisfaction dans un entretien accordé à Radio Okapi. Elle a néanmoins redouté que les efforts du président de la République soient annihilés à la suite du non-paiement des interventions aux évaluations certificatives des éditions 2022, 2023 et 2024. Angèle Payenzo le dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous saluons vraiment l'engagement du chef de l'État par rapport à la pérennisation de la gratuité au niveau de l'enseignement. Mais nous constatons qu'il y a du fonctionnement au niveau de l'organisation des évaluations certificatives. Depuis 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les intervenants à l'organisation de l'examen d'État et aux évaluations certificatives, même à la correction, donc ne sont pas payés. L'évaluation certificative, c'est le socle même de l'éducation parce qu'à la fin, on évalue. Et ceux qui travaillent pour cette organisation des évaluations ne sont pas payés. Comment l'organisation certificative des autres années soit organisée à bon et due forme? Donc, nous demandons à ce que le président de la République, le chef de l'État, puisse s'imprégner encore, comme il l'a dit au niveau de ces congrès, pour que ces intervenants soient bien payés pour ne pas perturber les évaluations qui viennent.
Autre réaction, l'opposition politique de Martin Fayoulou trouve rien de nouveau dans le discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Presse Epengé, porte-parole de la plateforme politique Lamouka de Fayoulou, estime que ce discours est plein de promesses et ne rassure pas. Car visiblement, a-t-il affirmé, le fait démontre sur terrain que l'espérance de la vie du peuple congolais croupissant dans le chômage ne fait que régresser. Les propos de Prince Epengé sont recueillis ici par Skenzibia Tayoro.
Nous donnons raison au peuple congolais qui n'a pas trouvé important de suivre un discours à la soviétique plein de promesses de M. Félix Tshisekedi. C'est la même récitation. Alors que l'espérance de la vie régresse au Congo, alors que la majorité de la population en âge de travailler est au chômage, M. Félix Tshisekedi voit un Congo prospère. Évidemment, dans son discours, il est en Allemagne d'Afrique, mais dans les faits, nous ne sommes pas plus qu'en Bandaka. Félix Tshisekedi qualifie le Congo d'un immense chantier. Oui, le Congo est un immense chantier, mais un chantier où le maître d'œuvre et la main d'œuvre détournent les briques, pillent tous les matériels censés construire le Congo. Dans ces conditions, le Congo sera l'enfer dans les jours à venir.
Nous allons à présent suivre la réaction des quelques habitants de la partie est du pays dans le Nord Kivu. La priorité reste la paix et le retour des personnes déplacées dans leur milieu d'origine. Tel est l'essentiel des réactions des habitants de Goma sur le traditionnel discours mercredi à Kinshasa du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation. Alors que certains encouragent les promesses sur l'économie, certains estiment inopportun en ce moment la réforme de la constitution annoncée lors du discours. Suivons ces propos recueillis par Bernard Nyangi.
Moi, je pense en tant que femme que ce n'est pas le moment de revoir la Constitution. Il serait mieux de se concentrer sur la vulnérabilité des femmes déplacées de guerre qui accouchent par terre. Il serait mieux qu'ils puissent discuter par rapport au manque de paix pendant plus de 2 ans et demi. Bientôt, les déplacés de guerre vont faire 3 ans.
C'est un discours plein de promesses. Nous aimerions cette fois-ci que les chefs de l'État puissent se rassurer de la matérialisation de toutes ces promesses. Quand il y a des questions, par exemple, à l'état de siège où le chef de l'État a promis prendre une décision, soit pour la levée ou pour la requalification. Nous avons été reconnaissants aussi de voir que le chef de l'État a salué l'apport de Ouazalendou sur les champs de bataille. Nous voudrions aussi voir qu'ils puissent les prendre en charge.
Il a martelé sur l'agression rwandaise, chose qu'on a vraiment félicité. Et la guerre sera la seule solution qui pourra nous faire la paix. Au-delà de ça, on s'attendait que le président puisse aussi se prononcer par rapport à la création d'emplois.
Actualité en rapport avec la sécurité, nous sommes dans la province de Kindu de Maniema où la situation sécuritaire dans le territoire de Kabambare reste jusqu'à présent préoccupante. Ce matin encore, il y a eu des affrontements qui occasionnent des déplacements massifs des populations vers les villages environnants. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, le gouvernement provincial s'y met pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du Maniema. Déjà, le mercredi, le bilan provisoire a été de 5 morts et plusieurs blessés avec des dégâts matériels graves, nous a confirmé le député provincial de Kabambare et l'autorité provinciale. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawa Moselemani Taylor, au micro de Florence Kizalunga.
Au niveau de Salamabila, il y a une situation inhabituelle. Depuis hier, il y a eu des affrontements entre un groupe soutenu par Yakutumba, qui est du Sud Kivu, et un autre groupe qui est installé au niveau du secteur de Babouyou. Alors, les bilans actuels, on nous parle qu'il y a des morts. Il y a ceux qui nous disent qu'il y a 4, il y a 5, mais nous attendons de plus amples précisions parce que le gouvernement provincial est en train déjà de se mettre pour pouvoir chercher des mécanismes pour protéger la population et leurs biens. Ce qui est très décevant et que même aujourd'hui, ce matin, on nous apprend que les affrontements continuent. Donc, nous ne serons pas surpris d'apprendre que le bilan en perte en vies humaines a augmenté. Au stade actuel, le gouvernement provincial est en train de se mettre avec ses moyens de bord, qu'on puisse d'abord déployer une équipe de façon à aller sécuriser la population. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'en parler au chef d'état-major général qui était de passage ici. Il nous a fait des assurances qu'on va nous équiper, qu'on va envoyer des hommes pour pouvoir remettre de l'ordre et sécuriser définitivement ces espaces du Sud qui sont occupés en grande partie par des groupes armés qui préfèrent s'appeler des Ouazalènes.
Actualité au niveau des lignes des fronts. À présent, dans le Nord Kivu, les FRDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leurs affrontements pour le 11e jour consécutif dans le sud du territoire de Lubero. Ce matin, des violents combats ont éclaté dans le village de Kaseye, situé à 60 km de Lubero centre. Tôt ce matin, les rebelles du M23 qui partagent avec les FRDC le contrôle de la localité des Kaseye ont attaqué les positions de l'armée. Après quelques heures d'intenses affrontements, les lignes des défenses des deux camps n'ont pas bougé et à la mi-journée, les combats avaient cessé. D'un côté, les FRDC cherchent à déloger le M23 de Kaseye, tandis que les rebelles s'efforcent de maintenir leur position. Amnesty International reproche à la MONUSCO d'avoir joué un rôle dans les événements ayant conduit au massacre au mois d'août à Goma contre les manifestants Ouazalendo, à ne pas confondre bien entendu avec les combattants Ouazalendo qui se battent contre les rebelles du M23. Selon Jean Maubert, chercheur RDC Amnesty International, la demande faite par la chef de la MONUSCO à Goma, l'ex-gouverneur Constant Ndima, d'interdire la manifestation est allée au-delà des prérogatives de la MONUSCO en RDC. On écoute Jean Maubert, joint par Jeff Ngoy.
La chef de bureau de la MONUSCO à l'époque à Goma avait écrit au gouverneur de l'époque Constant Ndima, lui demandant d'interdire purement et simplement la manifestation, jugeant qu'elle serait violente, qu'il y avait un risque d'attaque contre les installations et les personnels de la MONUSCO. Nous n'avons pas trouvé de preuves et en analysant les détails des déclarations, des écrits et des actes passés de ce groupe politico-religieux, la moindre preuve qu'elle préparait une manifestation violente contre contre la MONUSCO. Donc, nous considérons que la demande de la MONUSCO envers les autorités congolaises d'interdire la manifestation, surtout en connaissant la manière dont, malheureusement, les forces de défense et de sécurité congolaises se comportent souvent, nous considérons que cette demande est allée beaucoup trop loin, au-delà de ce que la MONUSCO pourrait se permettre et en violation du droit à la liberté de manifestation et d'association que les Nations Unies sont censées promouvoir et défendre.
Suivons à présent la réaction de la porte-parole de la MONUSCO et prospecte à la mission onusienne en RDC par Amnesty International.
En août 2023, la MONUSCO avait reçu des informations indiquant que des manifestations violentes étaient prévues contre son personnel et ses installations. Un risque significatif pour les civils congolais et les casques bleus dans la province du Nord Kivu. En tirant les leçons de situations similaires précédentes, notamment les manifestations violentes de juillet 2022, la MONUSCO avait contacté les autorités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo afin de souligner ses préoccupations relatives aux menaces pesant sur les civils et les casques bleus, mais aussi pour mettre l'accent sur la nécessité pour les autorités congolaises de respecter les droits de l'homme et d'éviter des restrictions à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. En ce qui concerne les événements du 30 août 2023, la MONUSCO a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement afin d'identifier et tenir responsables les individus impliqués dans les graves incidents qui ont eu lieu. Nous nous engageons à collaborer de manière constructive avec les autorités de la RDC pour remplir notre mandat, notamment en prévenant et en protégeant les civils contre les menaces immédiates de violence physique, en particulier les enfants et les femmes, en surveillant, rapportant et enquêtant sur les violations des droits de l'homme, en soutenant le système judiciaire de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'impunité et en assurant la protection du personnel des Nations Unies.
Toujours dans sa mission de vous faire part de l'actualité congolaise, Radio Okapi vous amène à présent à Bandundu pour parler de cette attaque lundi des miliciens Mobondo près du village Aviation à Kwamout. 12 corps calcinés viennent d'être inhumés ce mercredi. Ils ont été trouvés en état de décomposition par l'armée déployée pour imposer l'autorité de l'État. Il n'y a eu ni cercueil ni autre condition humaine pour un enterrement digne. Le député national élu de Kwamout qui livre l'information plaide pour une assistance en faveur des survivants de l'incendie. Guy Moussomo parle d'un manque de médicaments et des moyens financiers pour leur prise en charge. Il est joint au téléphone par Irène Bouma.
Les militaires sont descendus sur place au village Mbole. Ils ont trouvé 12 corps en décomposition. Alors les militaires n'ont pas voulu ramener les corps au village. Ils ont préféré les enterrer sur place. Alors, dans ça, il y a eu des femmes, des hommes et des enfants. Il n'y avait pas de cercueil. On les a inhumés à main nue, comme on le fait d'habitude dans des cas pareils. Ils n'étaient pas inhumés dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas de cercueil. Parce que quand les militaires sont arrivés, les corps gisaient déjà sur le sol. C'est pourquoi les militaires, n'ayant pas trop de moyens, ils ont préféré les enterrer à la va-vite. Oui. Ces gens qui ont été brûlés, ils sont à l'hôpital général de Kwamoutou, mais en manque de soins, parce qu'il n'y a pas de médicaments, et puis il n'y a pas de moyens financiers pour qu'ils soient très bien soignés, comme on peut soigner des personnes humaines. Alors ils sont là en train de galérer. C'est pourquoi nous, on est en train de demander à la ministre des Actions humanitaires et Affaires sociales de venir en aide à ces gens, et c'est vraiment urgent.
Avant de passer à la page internationale, dans la ville de Bounia, des milliers d'enfants de la commune de Mbounia ne disposent pas d'acte de naissance. C'est la conséquence de l'absence de registre de naissance observé depuis plusieurs mois au bureau de l'état civil de cette municipalité. De nombreux parents dont les enfants sont privés des droits de voyage à l'étranger s'en plaignent. Un reportage de Sadiq Aboubakar.
Plusieurs dizaines de femmes allaitantes défilent au bureau de l'état civil de la commune de Mbounia chaque jour. Nous avons rencontré plus de 5 portant des bébés à la recherche des actes de naissance. Marie Pissi, l'une d'elles, n'est pas à son premier rendez-vous. Elle dit en avoir marre.
J'étais venue ici quand la femme avait accordé 1 mois et demi. 8 mois après, on nous dit la même chose.
Certains parents disent n'avoir même pas le courage d'y amener leurs enfants, alors que la loi congolaise accorde un délai de 3 mois pour l'enregistrement de l'enfant à l'état civil. Marie Pissi déplore de nombreuses conséquences liées au fait que son enfant n'a pas d'acte de naissance.
Quand nous voulons voyager, par exemple, pour traverser les frontières, on nous demande des actes de naissance, on n'en a pas. Et pour nos maris qui travaillent travail dans des ONG, les enfants ne sont pas pris en charge.
Le bourgmestre de la commune d'Mbunia, le commissaire supérieur Jean-Marie Fouamba, dit avoir plaidé auprès de l'autorité de tutelle sans résultat escompté.
Nous sommes allés voir le responsable, c'est-à-dire la division de l'intérieur qui gère. Il nous a toujours promis, attendez. Vous savez que la commune d'Mbunia enregistre 30-40 personnes par jour. Présentement, on nous a remis qu'un seul registre. On n'a pas résolu le problème.
Nous n'avons pas encore la réaction de la division provinciale de l'intérieur à ce sujet. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le parquet suédois a clos l'enquête pour viol dans laquelle Kylian Mbappé était soupçonné en raison des preuves insuffisantes. L'enquête avait été lancée à la suite de la visite du joueur de football à Stockholm en octobre dernier. L'enquêtrice principale a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre l'enquête qui était centrée sur un incident dans un hôtel de la capitale suédoise. Elle a précisé que la personne désignée pour des motifs de viol n'avait pas été informée qu'elle était soupçonnée d'un crime. Et puis, la Commission européenne encourage désormais ses pays membres limitrophes à la Russie et la Biélorussie à refuser le droit d'asile aux migrants et a promis 170 millions d'euros supplémentaires pour les aider à renforcer la surveillance de leurs frontières. Selon la vice-présidente de la Commission, ces migrants originaires du Moyen-Orient et d'Afrique sont instrumentalisés par Minsk et Moscou en vue de déstabiliser l'Union européenne. Face à la pression migratoire, la Finlande a fermé sa frontière avec la Russie et la Pologne s'apprête également à franchir le pas aux grandes dames des organisations de défense des droits humains.
L'invité.
Amnesty International a publié mercredi son rapport sur le massacre perpétré par l'armée congolaise contre un groupe des adeptes du mouvement politico-religieux appelé Wazalendo le 30 août 2023 à Goma. Nous sommes dans le Nord Kivu. Ce jour-là, des manifestants avaient prévu d'aller demander le départ de la MONUSCO et l'armée avait réprimé cette manifestation. À travers ce rapport, cette ONG internationale formule quelques recommandations. Pour en parler, Radio Kapi reçoit Jean Maubert, chercheur RDC Amnesty International et répond aux questions de Jeff Ngoy.
Jean Maubert, bonjour.
Bonjour Jeff Ngoy.
En quoi consiste le rapport que vous avez publié sur le massacre dans le Nord Kivu, plus d'une année après?
Ce que le rapport d'Amnesty International révèle, c'est que le massacre n'était pas le résultat du hasard ou d'une bavure de la part de l'armée congolaise ou même d'une réponse à d'une sorte de d'autodéfense comme les autorités l'avaient laissé entendre. Il s'agit plutôt de la suite logique d'une série d'actes délibérés commis par les autorités militaires congolaises qui sont en charge de la province en vertu de l'état de siège, mais aussi par la garde républicaine, y compris les unités d'élite au sein de cette armée, de cette garde républicaine qui s'appelle force spéciale.
Comment Amnesty a procédé pour collecter toutes les allégations contenues dans ce rapport?
Tout d'abord, dès le mois de septembre 2023, une équipe de chercheurs d'Amnesty International s'est rendue sur place à Goma, a visité les lieux du massacre, c'est-à-dire la radio de Wazalendo dans le quartier Keshero et ce qu'ils appellent temple, leur lieu de culte dans le quartier Nyabushongo. Au premier endroit à la radio, c'est là que tout avait commencé à 3h du matin et puis à la radio, plus tard dans la matinée, c'est là que d'autres dizaines de personnes avaient été tuées par la garde républicaine. Donc, Amnesty International a donc interviewé plus de 70 victimes et témoins ou survivants, victimes, témoins de ce massacre, y compris également des journalistes, des officiers de l'armée congolaise, y compris certains de ces officiers qui ont été mis en cause, et puis d'autres personnes ressources. Amnesty International a également analysé plus de 80 photos et vidéos de ces événements là qui avait été filmé heureusement par des habitants.
Pourquoi chargez-vous la MONUSCO à travers ce rapport?
Amnesty International indexe la MONUSCO effectivement pour le rôle qu'elle a joué, non pas dans le massacre lui-même, mais dans les événements qui ont concouru à ce massacre. Comment? Et les documents trouvés par Amnesty International montrent que dès le 21 août, la chef de bureau de la MONUSCO à l'époque à Goma avait écrit au gouverneur de l'époque Constant Dima, lui demandant d'interdire purement et simplement la manifestation, jugeant qu'elle serait violente, qu'il y avait un risque d'attaque contre les installations et les personnels de la MONUSCO et surtout qu'il y aurait un risque de débordement que les autorités ne pouvaient pas contenir alors qu'elles faisaient face au M23 et à l'armée rwandaise. Nous n'avons pas trouvé de preuves, même en discutant avec les responsables des Nations Unies et en analysant les détails des déclarations, des écrits et des actes passés de ce groupe politico-religieux, la moindre preuve qu'elle préparer une manifestation violente contre la MONUSCO. Donc nous considérons que la demande de la MONUSCO envers les autorités congolaises d'interdire la manifestation, surtout en connaissant la manière dont malheureusement les forces de défense et de sécurité congolaises se comportent souvent vis-à-vis de la population civile, nous considérons que cette demande est allée beaucoup trop loin, au-delà de ce que la MONUSCO pourrait se permettre, et est en violation du droit à la liberté de manifestation et d'association que les Nations Unies sont censées promouvoir et défendre.
Est-ce que vous exigez également des enquêtes sur des atrocités perpétrées par les rebelles du M23 et le Rwanda sur des civils dans le Nord Kivu?
Ceci n'est pas le premier rapport qu'Amnesty International publie sur des violations et abus de droits humains commis en RDC. Par exemple, il y a quelques temps, Amnesty International a été l'une des premières organisations à enquêter sur le massacre et les viols de masse commis par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans les localités de Kishishe et de Bambou au Nord Kivu. Amnesty International a dénoncé ces faits et continue à les dénoncer. Amnesty a dénoncé à plusieurs reprises les violations commises par d'autres groupes armés, y compris les ADF Nalu et d'autres groupes qui commettent régulièrement des violations des droits humains.
Est-ce que vous êtes aussi au courant des crimes qui se commettent au Liban et en Syrie?
Bien sûr. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver énormément de rapports, de publications sur les massacres qui sont commis dans ces pays-là et dans bien d'autres. Il y a une semaine seulement, nous avons publié un rapport qui établit pour la première fois par une organisation internationale comme Amnesty International que l'armée israélienne a commis et est en train de commettre un crime de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce rapport est disponible sur Internet et c'est juste un exemple.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir écoutée.